Stephen King aime le Nebraska, Stephen King aime la jeunesse, Stephen King a écrit Les Enfants du Maïs, Fred Kirsch l'a adapté et John Gulager en a réalisé la suite du deuxième reboot. Bonjour et bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis toujours avec Chris, bonjour.
Salut.
Ça va?
Bah c'est le bordel dans la chronologie des Enfants du Maïs, mais à part ça, ça va.
Ouais, bah, si on se met à se formaliser pour ça, hein. Honnêtement.
Au bout d'un moment, quand la chronologie de l'univers DC Comics est plus logique, tu peux te poser des questions.
L'univers DC Comics en film ou en...
En tout.
D'accord, parce qu'en film, quand même, c'est bien illogique. Hein.
Ah non, c'est pire chez X-Men, je pense.
C'est possible, les X-Men chez Marvel, ouais, c'est possible.
Les X-Men de la Fox, c'est quand même assez catastrophique.
Ouais. Enfin, c'est pas le débat d'aujourd'hui,
oui,
mais...
Oui, ça n'a pas été écrit par Stephen King, ça aurait pu être intéressant, remarque, mais bon.
Ouais, Stephen King sur du super-héros, ça pourrait être intéressant. Bah, The Institute fait très un peu X-Men, par moment.
Ouais, que j'ai pas lu, du coup, mais... C'est ce que tu m'avais dit.
Ouais.
Mais bon, on va quand même pas commencer à digresser dès le début.
Non, pas dès le début, pas dès les premières secondes. Donc, la nouvelle, les Enfants du Maïs, on en a déjà parlé dans notre cinquième épisode, je crois, qui était consacré au film de Donald Pebersher. On a fait un autre épisode sur le quatrième opus de la série, donc c'est la troisième fois qu'on traite de cette série de films. Pour ce qu'on a dit de la nouvelle, je vous laisse vous reporter donc à ce premier épisode qu'on avait fait dessus. Et nous, on va directement passer au film. Comme d'habitude, nous allons le spoiler, donc si vous ne voulez rien en savoir, regardez-le avant. C'est parti.
Don't you ever want to stop? Me, people?
No. I don't know, I just felt like we were being followed.
I think we're on the deck of the Titanic or something.
I bet you'd kill to have a normal life.
Yeah.
You should just take your little circus of crazy and hit the road.
There's someone in this town. She's gonna do something terrible. Get my son as far away from here as you possibly can.
You're the only thing that matters. You always will be.
Who's there?
Alors, le film nous raconte l'histoire de Ruth qui a fui un culte diabolique alors qu'elle était enceinte, et de son fils désormais adolescent, Aaron. Ruth ne s'est jamais remise du choc de ces événements qu'elle a connus, et elle a régulièrement des hallucinations en plus d'être pas mal paranoïaque. Ils parcourent les routes des États-Unis ensemble depuis toutes ces années, mais un jour, alors que leur camion tombe en panne, Ruth va se dire qu'il est peut-être temps de se poser un peu pendant quelques temps, d'essayer de s'intégrer à une petite ville, à une petite communauté. Alors, je préfère prévenir, je vais avoir assez peu d'informations sur le film, parce que le souci, c'est que, à ce stade-là, la saga des enfants slash démons du maïs, c'est du truc qui sort en direct tout vidéo.
Quand ça sort?
Oh, ça finit toujours chez nous, oui, non, mais au moins aux États-Unis. Et pas grand monde en a quelque chose à faire en fait de tous ces films-là, donc c'est très dur de se renseigner dessus.
C'est vraiment à se demander comment ils font pour encore en produire, quoi. Tellement tout le monde semble rien
à foutre. Ouais, je sais pas, peut-être qu'ils veulent juste garder les droits de la licence et qu'ils collent des scénarios aléatoires dessus, on va y revenir, c'est une possibilité. Donc celui-là en tout cas, Children of the Corn Runaway, c'est le 10e film qui adapte les démons du maïs. Et c'est la suite, enfin je crois en tout cas, parce que j'en ai pas de preuve, de Children of the Corn Genesis, sorti en 2011, qui était un reboot de la série. Donc après le Children of the Corn de Donald Pebersher, dont on a déjà parlé, qui était déjà un reboot de la série, mais là c'en est un autre.
Deuxième film, deuxième reboot.
Voilà. Et c'est avant Children of the Corn de Kurt Weimer qui a été tourné cette année et qui a déjà été, qui a eu une diffusion restreinte aux États-Unis et qui lui est un préquel au film Children of the Corn, l'original de 1984.
Ah, 11e film préquel du premier film.
Voilà, c'est ça. Et donc qui fait l'impasse sur les 7e, 8e et 9e films.
Mais du coup, c'est des démons ou des enfants?
J'en sais rien, je pense que ça dépend des fois.
Et le popcorn, c'est quand qu'il est prêt?
C'est comme on veut. Chacun fait ce qu'il veut avec cette licence, de toute façon, je peux en tourner un demain, dire que c'est la suite du 3e opus.
Voilà, les enfants du maïs vont à Noz, voilà, parfait.
Donc, au scénario de celui-là, on retrouve Joël Soisson, qui était déjà producteur, scénariste et réalisateur de Genesis. Alors, Genesis, je ne l'ai pas vu, mais je suppose qu'à un moment, il y a Peter Gabriel et Phil Collins qui font un caméo. Enfin, j'espère, en tout
j'espère.
Cas.
J'espère. Qui joue, du coup, à Mega Drive.
Oui, aussi.
Voilà.
Aussi, ouais.
Putain, quel...
Ils ont du mal à brancher dans le maïs, justement, c'est ça l'intrigue.
Quelle avalanche de références.
Donc, Joël Soisson, c'est... aussi le producteur de Children of the Corn Révélation, donc le 7e opus, je crois, de la saga principale, enfin, c'est... ou le 6e.
Ça devient compliqué.
Ouais. C'est... ou le 5e, parce que le 6e, je crois que c'est 666 Isaac Returns. Donc ça doit être le 5e Révélation.
Peut-être.
Mais je me trompe peut-être.
Voilà.
Soisson, en tant que producteur, il a surtout bossé sur des films de genre et surtout bossé sur des suites, en fait. Donc, par exemple, c'est lui qui est producteur de Maniac Cop 3, de Dracula 2001 et de ses suites, de Pulse, le remake américain de Cairo de Kiyoshi Kurosawa. Mmh. Bon, bah, Cairo, c'est très bien, Pulse, ça l'est moins.
Oui, clairement moins.
C'est aussi le producteur de Mimic 2, Hellraiser 5 et Hellseeker, donc Hellraiser 6.
Mimic 2 est catastrophique.
J'ai même pas vu.
Oh,
il
est
voilà.
Tellement catastrophique.
Mais c'est aussi le producteur, et ça c'est un peu inattendu, de l'excellente aventure de Bill et Ted avec Keanu Reeves, qui est quand même un tout autre style de film.
Oui.
Alors il a écrit aussi une partie des. Enfin, il a fait le scénario d'une partie des films qu'il a produit. Par exemple, c'est lui qui a fait le scénario et qui a produit Piranha 3DD, Pulse 2 et 3, qu'il a aussi réalisé dans ces deux cas. Highlander Endgame.
Il est quand même autant mauvais producteur que réalisateur. Hein.
Ouais. Et il est aussi producteur de Prophecy 2, producteur et scénariste de Prophecy 3, et producteur, scénariste et réalisateur de Prophecy Forsaken et Prophecy Uprising. Bref, toutes les séries dont vous saviez pas qu'elles avaient eu des suites, c'est lui qui les a.
Prophecy, c'est la série avec Christopher Walken.
Ouais, c'est ça.
Dont même le premier, déjà, n'était pas extraordinaire de base, donc...
Non, mais il fait des suites à tout, j'ai l'impression. Il récupère toutes les sagas de films d'horreur un peu oubliés, et il en fait les suites, souvent en collaborant avec Dimension Films, donc qui est derrière Children of the Corns, Runaway. Le réalisateur, qui s'appelle John Gulager, bon, il est surtout sur des productions de Soisson, en fait, en tant que réalisateur. C'est lui qui réalisait aussi Piranha 3DD. Et alors ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il a aussi réalisé un film qui s'appelle Fist, F-E-A-S-T.
Ah.
Voilà. Sauf que ce film a eu deux suites, donc Fist the Sloppy Seconds et Fist the Happy Finish. J'étais plié de rire en lisant ça.
D'accord. Oui, mais bien, bien. Oui,
je laisse ceux qui parlent anglais expliquer aux autres. Et c'est aussi un directeur de la photo, mais pas sur son propre Démon du Maïs, et un monteur occasionnel, et pour le coup c'est lui qui a monté Children of the Corn Runaways, en plus de l'avoir réalisé, ce qui m'a surpris parce que je croyais qu'il y avait une règle aux États-Unis, c'est dans les conventions de réalisateurs, qui interdisait d'être à la fois réal et monteur, c'est que c'était ce qui obligeait les frères Cohen ou d'autres à prendre un pseudo en fait quand ils s'occupaient du montage de leur propre film. C'est Soderbergh aussi qui fait beaucoup ça. Alors au niveau de la production, on a une société qui s'appelle Gatlin Returns, qui n'a produit que ce film. En même temps, Gatlin, c'est le nom de la ville où se passent les Enfants du Maïs l'original, donc c'est clairement un truc qui a été fondé que pour ça.
C'est ça, que pour le film. Tellement personne voulait le produire, sans doute.
Et personne sauf Dimension Films, dont on a déjà parlé, donc c'est une succursale de Miramax qui faisait surtout les films de genre, en fait.
Oui.
Ils ont produit des bons trucs, hein, d'ailleurs, c'est eux qui sont derrière les Scream, par exemple.
Oui.
Et une autre société appelée Strike Accord qui n'a quasiment rien produit d'autre, donc effectivement les fonds à mon avis c'était des producteurs désespérés qui voulaient bien donner un peu d'argent L'actrice qui joue Rousse, c'est Marcy Miller, dont la carrière semble doucement prendre de l'ampleur depuis quelques années, alors pas tant en termes de célébrité des films, parce que c'est des trucs assez obscurs, c'est souvent de la série B ou de téléfilms, mais au moins en termes de nombre de prestations. Bon, apparemment sa prestation la plus constante, c'est un rôle dans beaucoup d'épisodes de Des Jours et des Vies, hein, de, tu sais, des soaps interminables qui existent depuis 55 ans aux États-Unis.
De l'amour, gloire et beauté.
Ouais, c'est ça. Donc, elle y a joué de 2016 à 2018 et elle y rejoue en 2020. Donc, elle est dans 200 épisodes sur les, je crois, 50 000. Je sais plus combien que compte la série. Aaron, il est interprété par Jake Ryan Scott. La fillette qui apparaît dans les visions de Rousse, c'est Sarah Moore qui l'interprète. Et le personnage de Sarah, qui est donc une. Tenancière de petit resto-route.
Pas tenancière, serveuse plutôt.
Serveuse dans un petit resto-route, effectivement. Et jouée par Marie-Kathleen Bryant. Et enfin, Carl, un garagiste qui va plus ou moins les accueillir. Et joué par Lynn Andrews. Et je passe rapidement sur tous ces gens parce qu'ils ont en fait une carrière assez limitée en dehors de ça. Lynn Andrews a quand même quelques trucs en plus par rapport aux autres, mais ça reste vraiment obscur et dans des productions qui sortent pas des États-Unis en fait. Donc je vais pas insister là-dessus. Le directeur de la photo s'appelle Samuel Calvin et il n'est pas beaucoup plus connu, mais en fait c'est parce qu'il était en tout début de carrière. Avant ça, il a fait quasiment que des courts-métrages. Depuis, il continue doucement, mais ça reste un nom relativement obscur. Et le compositeur, enfin, Philip Griffin, pareil, relativement inconnu. Il a été orchestrateur pour Michael Kamen et pour Danny Elfman dans les années 80 et 90, mais bon, les noms des orchestrateurs, on les retient rarement. Enfin, à part à la limite Steve Bartek, qui fait quasiment toutes les orchestrations d'Elfman, mais voilà. Et en tant que compositeur, il a travaillé quasiment que à la télévision, et son crédit principal, c'est qu'il a fait les musiques de Mr. Mask.
D'accord.
Voilà.
D'accord, oui, d'accord. Ça me plaît.
Ici, la musique est pas trop mal, elle alterne entre des pistes, des trucs très attendus pour de l'horreur, c'est-à-dire il y a du carillon, il y a des trucs, des sons plus distordus, et des pistes à la guitare plus calmes pour les moments intimistes. Donc c'est très conventionnel, mais je trouve que ça marche pas mal, donc bon, je vais pas reprocher ce travail-là.
Oui, je suis d'accord.
Voilà, ça fait le taf. Le film est sorti directement en DVD, peut-être Blu-ray, sur les plateformes de VOD. Il est passé globalement inaperçu, et donc j'ai trouvé assez peu de critiques. Celles que je trouve sont d'ensemble soit très mauvaises, soit juste indifférentes, en disant « c'est totalement oubliable ». Et il a seulement 7% sur Rotten Tomatoes, sachant que ce n'est pas la fraîcheur, c'est le score général, parce qu'il n'y a pas assez de votes pour qu'il y ait une fraîcheur.
If you want to shack up with that colored boy, that's your business.
What are you saying?
I'm saying that maybe you should think twice about setting down roots here in Luther. Maybe you should just take your little circus of crazy and hit the road.
Mais donc, nous, qu'est-ce qu'on en a pensé? Je te laisse commencer, Chris.
Eh ben, après avoir déballé toutes ces infos et toute la sorte de talent de tous ces gens-là, eh ben, c'est pas si mal que ça, en fait. Les enfants du Marx Runaway, hein?
Bah oui, on est d'accord, ouais.
On est plutôt d'accord, on a plutôt passé un bon moment devant. En fait, le souci du film, c'est qu'il est vendu comme étant un Children of the Corn, clairement. On est d'accord sur ça. On pense tous les deux que c'est un film... À la base, ça devait être un film d'horreur avec comme sujet le stress post-traumatique et qu'on a collé... on a affilié la licence Children of the Corn dessus, on ne sait pourquoi.
Probablement pour renouveler les droits, hein. À mon avis, c'est possible que ce soit juste ça.
Oui, parce que ça m'étonnerait que ça soit dans l'optique de « Ah, ça va attirer du monde ». Non, ça fait depuis des années que ça n'attire plus personne.
Bon, après, en DTV, il y a peut-être moyen que ce soit un truc un peu de vidéoclub ou de plateforme VOD qui marche assez pour attirer du monde.
Vidéoclub, aujourd'hui,
non. Ouais, bon, oui.
On va rentrer un peu plus dans le fond. Sur l'un des gros défauts majeurs, c'est la réalisation qui est très plan-plan.
Ouais.
Voilà. C'est le gros défaut, parce que niveau image, c'est plutôt bien léché. Il y a des passages avec du bon jeu de lumière. Toute la scène d'intro où le champ de maïs est brûlé, c'est très très joli.
Ouais. Et puis même dans le garage, il y a des belles séquences un peu angoissantes.
Ouais, clairement. Les séquences horrifiques fonctionnent. avec pas mal de ralentis, parce que ça, en général, ça se passe pendant des visions que vit le personnage de Ruth.
Bah, même là, on spoil, mais même exclusivement pendant des visions, en fait, finalement.
Pas exclusivement. Il y a des passages horrifiques où il y a eu intervention, par exemple, la mort du garagiste,
ouais.
C'est pas de la vision.
Ouais, mais bon, nous, on le voit, vu qu'on voit la petite fille, et que c'est... Enfin, on comprend que c'est Ruth, en réalité, qui tue.
Ouais.
On est finalement quand même un peu dans sa tête.
Oui, clairement.
Au moment du meurtre.
C'est ça. Donc, tous ces passages fonctionnent bien. On l'a dit, la musique fait le taf, elle est pas extraordinaire, mais elle s'accorde bien avec ce qu'on est en train de voir. Y a pas de dissonance entre la musique et ce qu'on voit à l'écran. Donc, globalement, ce que le film apporte pour faire de lui quelque chose de plus que banal, c'est tout ce qui concerne le stress post-traumatique. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est pas du tout traité par-dessus la jambe. C'est même le cœur principal du film. Parce qu'il y a beaucoup plus de scènes, au final, de remise en question, d'introspection sur ce sujet-là, que de vraies scènes horrifiques.
Oui.
Et c'est ce qui rend le film intéressant, au final.
Ouais, c'est ça, les personnages sont... Enfin, la mère Ruth et son fils sont plutôt bien écrits, leur relation fonctionne et a quelque chose d'assez touchant.
C'est bien développé, ouais. Même les personnages qui gravitent autour d'eux.
Ouais, c'est ça. À la limite, le retournement de situation concernant Sarah, à la fin, il sort un peu de nulle part, je trouve.
Il y a un petit peu de trop. Hein.
Ouais, mais bon, voilà, on peut faire l'impasse là-dessus. Et ouais, c'est intéressant quand ça se concentre sur ces persos, que ça se pose. Il y a un rythme assez posé, en fait. Hein.
Ouais.
Le film n'est pas pressé.
C'est très lunaire.
Ouais.
C'est lunaire, ça prend son temps, c'est très contemplatif par moments. C'est pour ça que ça sort vraiment de l'ordinaire, en fait.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça qu'on pense qu'on a collé l'étiquette Children of the Corn dessus, sans vraiment de rapport, en fait, au final.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ça aurait pu être n'importe quel groupe un peu glauque, ce qui cause le choc post-traumatique de Ruth.
Mmh. Oui, ça aurait pu être n'importe quelle secte.
Mmh.
Ça aurait pu être le laboratoire de Smoking.
par exemple. Donc, ouais, on passe un moment. Les séquences de meurtre, comme tu évoquais, elles sont plutôt réussies, et là, pour le coup, elles sont assez gore et plutôt efficaces dans leur style.
Moi, j'aime beaucoup la séquence... La séquence dans le driving,
oui.
La première fois qu'elles y vont, en fait, où il y a du coup plein de gamins qui surgissent de partout et qui se mettent à égorger les gens comme ça, au gré du vent.
Mm.
Et en fait, à chaque fois qu'un meurtre est commis, on fait un arrêt sur image, voilà, un ralenti. Et il y a un jeu de lumière très sympa entre le soleil qui pénètre dans le driving et les éclaboussures de sang qui giclent de partout. Il y a un vrai travail visuellement, c'est recherché.
Ouais.
C'est pas du gore pour lancer du gore, en fait. À ce moment-là, il y a une vraie mise en scène, et on sent qu'il y a quelque chose, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, la mise en scène brille par quelques séquences, mais sur l'ensemble, elle a du mal à se maintenir à un niveau aussi élevé.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Ce qui est un peu dommage. Après, il est plutôt bien joué, je trouve, aussi. Le casting a vraiment pas à rougir de ce qu'il fait.
Mmh.
Donc ouais, en fait, c'est vraiment surprenant, parce qu'on est plus face à un drame un peu horrifique... qui a vraiment plus aucun rapport avec King, de près ou de loin.
Ouais, clairement pas. Même à part des enfants tueurs dans des champs de maïs.
Ouais, c'est ça, et encore, finalement, c'est que un préquel, parce que les gens qui tuent dans le film, c'est pas ces enfants tueurs-là, à part à la toute fin où le culte se reforme.
Voilà.
Mais sinon, c'est pas ces gens-là, les tueurs. Hein. C'est l'héroïne, on spoil. C'est elle qui a tellement été perturbée par ce qu'elle a vécu qu'elle est restée tueuse dans ses... Sans même en avoir conscience, elle imagine une petite fille démoniaque qui va tuer tout le monde, qui la suit partout. Mais en réalité, c'est elle qui agit.
Mmh. Un petit retournement de situation à la haute tension d'Alexandra Aja, quoi.
Oui, que j'avais un peu vu venir, parce que comme toutes les personnes qui se sont tuées sont des personnes qui l'ont offensée avant, j'avais vu venir le retournement.
Pour le coup, tu vois, je l'avais pas senti venir.
D'accord.
Je pensais que c'était pas une gamine,
ouais.
Mais que c'était quelque chose d'autre. C'est une espèce d'entité liée au maïs, forcément.
Ouais.
Mais je pensais pas que c'était elle. Voilà. Je m'attendais à une autre révélation. Mais du coup, celle-ci n'est pas amenée comme un cheveu sur la soupe, donc ça,
ouais.
Ça va bien aussi avec ce qui nous est raconté. Le seul petit truc que j'aurais à redire, c'est le personnage du garagiste que je trouve un petit peu forcé dans sa relation avec Russe.
Ouais, c'est bah leur relation évolue peut-être un peu trop par à-coup en fait.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est un petit peu brut de décoffrage quoi. Mm. C'est à un moment, ils arrivent, ils les détestent tous les deux. Après, il accepte de les accueillir, puis deux secondes après, il veut coucher avec elle quoi. Mm. Oh. Je veux bien que ça dure que 1h20, mais au bout d'un moment, faites les choses bien quoi. Et puis surtout, il est offensé qu'elle veuille plus coucher avec lui une fois que son fils surprend la scène. Bah oui, mais en même temps.
Oui.
Des grandes calmes. Hein.
Bon, après, ça, il est peut-être écrit pour être un personnage un peu connard. Hein.
Oui, bah après, typiquement, tu vois la volonté de faire le personnage en mode connard pour qu'ensuite tu n'aies pas de regrets, parce qu'après, il se fait assassiner de manière brutale. C'est pour rendre sa mort jubilatoire, typiquement. Ouais. Pour le coup, ça fonctionne, parce que sa mort est plutôt sympathique et bien rendue à l'écran. Mais moi, c'est au niveau des personnages, ça serait mon seul petit bémol. Et c'est vraiment ouais, toute cette ambiance pesante et lunaire, ce côté drame en fait, qui fonctionne très très bien, plus que l'aspect horrifique.
Oui, clairement. Moi, je pense que voilà, ça va pas durer bien longtemps, mais je pense qu'on peut s'arrêter là.
Hein. Oui, on est typiquement dans le meilleur épisode de la série pour l'instant.
Ouais, et ça le restera peut-être un moment. Et nous allons voir ensemble, enfin écouter ensemble une petite scène du film.
Qui ne sera pas doublé par nos soins cette fois-ci.
Non, passez pas à chaque fois. Très bien, donc en scène du film, nous avons choisi une scène relativement vers le début, donc Ruth et Aaron sont arrivés dans la petite ville et sont déjà installés, le garagiste les a autorisés à passer la nuit dans son entrepôt. Et en pleine nuit, Aaron se réveille et se rend compte que sa mère a une de ces crises de vision et d'angoisse pendant lesquelles elle voit des trucs pas cool, et il va tenter de la calmer, de la ramener à la raison.
Mom. Mom. Cut them down, plant their seed, spread their blood. Mom.
Why did you sneak up on me like that?
I didn't. I was talking the whole time.
I'm sorry, I didn't hear you.
What were you doing?
I couldn't sleep, so I thought.
It doesn't matter.
Let's get you to bed.
I can't sleep either. Fair enough.
Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette scène?
Parce que, niveau ambiance, ça fonctionne à merveille. C'est une ambiance très pesante, qui, là, par contre, nous plonge à fond dans le côté horrifique. Qu'on est dans un endroit déjà inconnu à ce moment-là pour les personnages, puisqu'on est dans le garage, tout simplement, il y a le mec qui les accueille, que c'est aussi inconnu pour nous, parce que le mec, la première fois qu'on l'a vu, bah, il était pas très enclin à les avoir dans les pattes. Donc on peut penser que la menace va venir de lui, parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe quand Aaron se réveille. Ensuite on comprend qu'en fait on est face à encore un moment d'introspection de la folie, entre guillemets, de sa mère, qui est en train de revivre ce qui lui arrive. En plus à ce moment-là, elle tient une clé à molette.
Ouais.
Donc à ce moment-là, tu dis qu'elle peut vriller et faire quelque chose.
Après, folie entre guillemets, dans l'ensemble, quand tu t'imagines en petite fille en train d'assassiner violemment des gens, je pense que tu peux dispenser les guillemets à folie.
Oui, mais à ce moment-là, tu ne le sais pas.
Oui.
À ce moment-là, en tant que spectateur, tu ne le sais pas parce qu'on en est à une petite quinzaine de minutes de film.
Oui.
Voilà. Et puis, je trouve que la scène fonctionne bien aussi par le aussi côté réalisation. Il y a un beau jeu de lumière, tout est très rouge. dans cette séquence-là, parce que t'as un petit éclairage de garage, quoi. Ça fonctionne bien, t'as une bonne ambiance, le jeu d'acteur est là. Le personnage de Ruth est assez effrayant pour amener cette tension, et puis encore une fois, le fait qu'elle soit... que tu sais pas comment elle va réagir à l'approche du fils. Et c'est vrai qu'après, le fait que lui tente de la calmer, ça amène un petit peu de douceur à toute cette scène-là, et le mélange de ces deux émotions fonctionne parfaitement.
C'est ça qui est intéressant avec le personnage de Rose, c'est qu'à la fois on sent qu'elle a la volonté d'être une bonne mère et de vraiment protéger son fils, et en même temps, elle va de plus en plus accumuler les erreurs, de plus en plus être... possessive en fait, quand elle veut absolument savoir tout ce qu'il fait, quand elle veut limite pas qu'il se rapproche d'autres gens, dans le cas de Sarah elle avait peut-être raison, mais voilà. Elle a une relation très exclusive avec son fils, mais en même temps elle lui veut que du bien, donc je trouve ça assez intéressant, le personnage est vraiment bien dans ce niveau-là.
Et c'est ce qui fait aussi du personnage un personnage attachant au final.
Ouais.
C'est parce que elle veut vraiment faire le bien en fait à chaque fois qu'elle fait une erreur. C'est pas tant à cause d'elle, c'est surtout le monde qui l'entoure qui lui fout des bâtons dans les roues.
Oui, aussi, parce que dès qu'elle va tenter de s'installer, elle va avoir des problèmes, on va lui... Enfin,
il y a
une scène avec la directrice de l'école où on la traite clairement d'étrangère, ouais.
Il y a aussi ça, il y a aussi le passage avec la directrice qui, il faut prouver que c'est bien votre fils, nanana...
Ouais.
Voilà, t'as tout est fait pour l'emmerder, et du coup, on est face à un personnage humain. Au final, qui rencontre des problématiques qu'on pourrait nous-mêmes rencontrer.
Qui a toujours été déstabilisée, qui a vécu un gros traumatisme et qui, depuis, on nous dit qu'elle est sur les routes, depuis qu'elle a eu ça, en fait. C'est sous-entendu qu'elle s'est jamais posée et donc elle a jamais pu avoir une chance de se reconstruire vraiment.
C'est ça, et c'est pour ça que, du coup, le personnage fonctionne bien, et c'est pour ça que l'aspect drame fonctionne bien et que tout ce sujet du stress post-traumatique est bien amené.
Donc c'est en fait l'horreur va être totalement au service du drame dans ce film-là, et ça c'est plutôt cool à voir.
C'est plutôt cool et c'est pas souvent finalement.
Non.
Surtout pour une adaptation de King.
Surtout pour une adaptation de King.
Surtout quand tu lances un truc qui s'appelle Je sais pas de quand, et tu t'attends à un film d'horreur con quoi.
Ouais, c'est ça, ça nous a tous les deux pris pas mal par surprise pour le coup celui-là.
Avec, comme je te l'ai dit en off, avec une ambiance ultra Sundance quoi, festival de Sundance,
oui.
Des fois t'as l'impression de voir vraiment un film d'auteur avec des moments où ça gicle de l'hémoglobine à tout va quoi.
Ouais, c'est ça, il aurait suffi que la réalisation soit vraiment plus aboutie, qu'il y ait quelques points de scénario un peu amenés de manière plus douce, un peu mieux amenés, et ça aurait pu être vraiment très très bien.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est du coup, c'est dommage en fait.
Mm-hmm.
Parce qu'on est vraiment passé à côté d'un bon film. On n'est pas devant un mauvais film, on va revenir quand on fera le classement. Mais on était pas loin de la vraie réussite, pour le coup. C'est pour ça que c'est dommage aussi, cet accueil critique qui a pas l'air fofolle, mais encore une fois,
oui.
Je pense que c'est juste que le film est mal vendu.
Ouais, je pense que ça joue beaucoup.
Voilà.
D'ailleurs, on passe au classement ?
On peut passer au classement.
Allez, c'est parti.
Classement des films.
Bon, alors oui, il n'y a pas besoin de classer la nouvelle. Alors, pour mémoire, Les Enfants du Maïs a actuellement la 16e place. Il est entre Bon Ménage et Poids Lourd, deux autres nouvelles. Et pour les films, le classement actuel, nous avons en premier Carrie de Brian De Palma, en deuxième Chambre 1408 de Michael Avstrom, et en troisième No Smoking d'Arunag Kashyap. Et aux trois dernières places, donc en 23e, nous avons Les Démons du Maïs, de Donald P. Morshers, Jesse de Mike Flanagan et Le Fléau de Mick Garris.
J'avais aussi bien porté son nom.
Ouais, ça pour le coup c'est vraiment le fléau de ce classement. Et donc, où est-ce qu'on va mettre ce Children of the Corn Runaways ? Pour moi, ça va se classer dans la catégorie moyen plus, donc déjà au-dessus de Couple Modèle, qui était pour moi plutôt le moyen moins, le début du moyen moins.
Pour l'instant, je te suis.
Je le mettrais, je pense, entre Quicksilver Highway et La Tempête du Siècle.
Ah bah c'est exactement la place à laquelle je le voulais.
Non bah
c'est parfait. Parce que, comment dire, La Tempête du Siècle est bon, mais il est un petit peu longuet. Il y a quelques longueurs qui font que J'ai quand même préféré les enfants de Mace Runaways. Mais Quicksilver Highway a Lloyd pour lui, déjà.
Ouais.
Et puis bah, les deux.
Lloyd
les deux...
en costume SM, mais Lloyd quand même.
Lloyd quand même. Et puis les deux segments sont vraiment chouettes, mais normalement on devrait pas le prendre en compte parce que c'est pas une adaptation de King. Mais le segment qui adapte
Clive
Barker est cool et c'est difficile de passer à côté. Quoi.
Voilà, il est quand même très fun. Je pense qu'il compte quand même dans la vie générale qu'on donne dessus. Donc,
voilà,
ouais,
quoi qu'il en soit, ça compte. Mais moi, c'était la place à laquelle je le voyais, en tout cas.
Donc, ouais, 10e place pour Children of the Corn Runaways.
Un film vraiment...
très inattendu.
Inattendu et un film vraiment qu'on conseille. Hein.
Ouais, c'est ça. Allez vraiment y jeter un œil. Vous passerez un bon moment. Alors, je me trompe, c'est parce que je n'ai pas reporté sur mon... sur ma fiche encore No Smoking. Ce sera la 11e place,
en plus. Il est 11e,
fait,
mais pas 10e, voilà. Mais oui.
Enfin, dommage, mais tant pis. Voilà, j'avais pas reporté No Smoking dans mon classement encore, du coup ça décale tout d'une place vers le bas, mais ça reste derrière Quicksilver Highway, qui est donc 10e.
Ça reste très très honorable.
Bah, globalement, pour faire un petit point, moi je dirais que jusqu'à la 8e place, donc Cœur perdu en Atlantide, on est dans les très bons films.
Ouais.
Après, à partir de Cimetière et jusqu'à la dernière affaire d'Omné, on est sur les trucs où on passe un vraiment bon moment. Voilà, qu'on des défauts, pas mal de défauts parfois, mais un vraiment bon moment. Et après, pour le coup, on sombre petit à petit du moyen au très mauvais.
C'est ça. Le moyen étant jusqu'à Salem, hein, parce que même à partir de Carrie, déjà, ça commence à...
Oh, Carrie, ça va encore, je trouve.
Ouais.
Carrie, il y a des bonnes choses.
Carrie, il y a vraiment l'aspect visuel qui fait ultra téléfilm.
Bah, c'est un téléfilm.
C'est beaucoup trop marqué, quoi.
Peur bleue et Dreamcatcher, c'est un peu les deux nanars qu'on a actuellement. Et après, par contre, à partir de la tour sombre, ça devient plus compliqué.
Ouais, à partir de la tour sombre, c'est mauvais.
Voilà, bah, je pense qu'on va pouvoir passer au tirage au sort des prochains.
Ça me fait grand plaisir.
Comme j'ai la boîte sous la main, je me permets de commencer.
Le fameux tirage au sort que la France nous envie.
La France. Alors, j'ai un papier.
Il a un papier.
Et sur ce papier, il est marqué Le cobaye de Brett Léonard, vaguement adapté de la pastorale. Donc c'est le film avec... c'est Timothy Dalton, c'est
oui,
ça
Oui, il me semble, ouais.
Ouais, c'est un ancien James Bond, en tout cas, mais je sais plus si c'est Dalton ou Brosnan.
Et surtout, c'est le fameux film où King a intenté un procès, du coup.
Oui, parce que, comme on le verra, l'adaptation est quand même très lointaine. Hein.
voilà. Au moins, c'est un film qu'on va pas galérer à trouver, parce qu'il est facilement trouvable en DVD à pas cher.
Ah bah, ouais, j'espère qu'il sera pas cher. Hein.
Et du coup, on reste sur Danse Macabre.
Oui.
On reste sur Danse Macabre.
Bah, c'est le recueil de nouvelles le plus adapté.
Je secoue les petits papiers. Je fixe Issam pour que mon regard ne soit pas porté sur un petit papier. Regarde, je prends un petit papier.
C'est bien fait, tu fais ça honnêtement.
Je fais ça honnêtement. Je te rends le chapeau. Et j'ai tiré. Je tourne le papier vers moi. J'ai tiré. Ah Issam va être très heureux puisque j'ai tiré Dr. Sleep.
Oh putain, non, mais je viens de le mettre en plus.
De Mike Flanagan. Est-ce que tu es content de l'avoir ajouté dans le chapeau il y a exactement 30 minutes?
Oh.
tu es heureux, hein, donc Dr. Sleep.
En plus, je vais devoir regarder la version longue maintenant.
Dr. Sleep, la suite de Shining.
Ouais.
La suite de Shining, roman et. Film de Kubrick, apparemment il arrive à faire les deux.
Ouais, c'est ça. Donc, tu l'as lu toi le roman ?
Je n'ai ni lu le roman ni vu le film.
Putain.
Donc ça va être.
Tu vas pas regretter de présenter le podcast, hein, je te le promets.
Ça va être totale découverte. En plus, il me semble que c'est quand même que le film est assez long et que le roman est un sacré bébé aussi.
Alors le roman, ça doit être dans les 500-600 pages. Le film, je crois que c'est 2h20 en version normale et quasiment 3 en version longue.
Mais est-ce que c'est 2 heures de perdu ?
Ouais. Franchement. Totalement.
Tu sais que tu as un avis pas commun.
Oui, je sais.
C'est que ce film est beaucoup apprécié.
Oui. Bah, c'est aller regarder la critique de Durandal qui a adoré, par exemple, par honnêteté, aller voir sa critique avant de nous écouter dans un mois.
Mais il est adoré par des gens qui pour lesquels souvent on a des avis raccord.
Oui,
aussi, c'est pas, c'est pas que du randage.
Non, mais on en reparlera en temps voulu.
On en reparlera voilà. Du coup dans...
dans un mois.
En 4 semaines.
C'est ça. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter.
Oui, au gré des bulles, pour moi, @cinémaarchiviste pour toi.
Ouais, vous pouvez nous retrouver dans deux autres podcasts, La Guerre des Claps consacrée au cinéma en général et Casse sur Table consacrée aux nouveautés comics, manga, BD, que nous présentons avec Necronomicon. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, ça on mettra le lien dans la description, n'hésitez pas à passer nous faire coucou. Et n'hésitez pas non plus à partager ce podcast pour aider à le faire connaître, ça nous ferait très plaisir.
Surtout après notre petit hiatus.
Ouais, et si vous voulez nous envoyer des chèques, on peut toujours s'arranger aussi.
Exactement. Surtout si vous voulez qu'on fasse du doublage.
Voilà, c'est pour poursuivre le doublage comme la dernière fois. En attendant, on vous dit à bientôt, et n'oubliez pas...
que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
À plus.